Et c'est l'heure du journal de la rédaction présenté par Thomas Cluzel.
Bonjour Lucille, bonjour à toutes et à tous. Et on commencera avec la journée des décisions difficiles pour l'exécutif au moment où la France redoute un rebond de l'épidémie de Covid-19. Un conseil de défense se réunit depuis ce matin pour prendre des mesures destinées à donner de la visibilité sur les prochaines semaines.
Patronats et syndicats se retrouvent aujourd'hui pour de nouvelles séances de négociations. Objectif, mieux encadrer le télétravail.
On l'a appris ce matin, Christian Poncelet, gaulliste fidèle, ancien président du Sénat, est décédé à l'âge de 92 ans. Nous reviendrons sur son parcours politique de plus d'un demi-siècle, pendant lequel il aura exercé presque tous les mandats.
L'actualité également à l'étranger, avec tout d'abord la situation de plus en plus désespérée de ces milliers de réfugiés ayant fui les incendies du camp de Moria à Lesbos.
Oui, tous rêvent de partir pour Athènes, mais se retrouvent empêchés par la police de se rendre vers le port. Nous reviendrons également sur l'issue d'une semaine de vives tensions entre le Royaume-Uni et l'Union européenne pour arriver à un accord commercial avant le 1er janvier. Nous irons aux États-Unis pour les commémorations des attentats du 11 septembre en pleine campagne présidentielle. Enfin, l'invité de la rédaction aujourd'hui, à la veille de la 85e édition de la fête de l'UMA en temps de coronavirus, Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime. 6 mois, jour pour jour, après que l'Organisation mondiale de la santé a qualifié le coronavirus de pandémie, l'espoir d'envisager un dénouement rapide de la maladie semble décidément se réduire chaque jour à peau de chagrin. En France, notamment, c'est précisément cette date symbolique que les autorités ont choisi de faire coïncider avec la présentation de nouvelles mesures aujourd'hui, face à une situation dépeinte comme inquiétante par le Conseil scientifique. Son président, Jean-François Delfraissy, est même allé cette semaine jusqu'à anticiper que le gouvernement serait obligé de prendre un certain nombre de décisions difficiles. Un avertissement fracassant qui n'a pas eu l'heure de plaire, en l'occurrence au président Emmanuel Macron, lequel a rappelé hier que si le Conseil avait certains rôles techniques, c'est bien aux dirigeants politiques de prendre des décisions sans céder à quelque panique que ce soit. Toujours est-il que sur l'ensemble du pays, le nombre de cas positifs et le taux de positivité des tests augmentent régulièrement depuis quelques semaines. Tara Schlegel, bonjour.
Bonjour.
Plusieurs indicateurs ne cessent de se dégrader, et en particulier, Tara, dans certaines régions.
Oui, pour juger de la gravité du mal, l'engorgement des services de réanimation est un critère essentiel, Thomas. Et pour l'instant, la situation est sous contrôle, même si elle est très disparate. 4 régions seulement regroupent 68% des malades placés en réanimation. Et c'est très différent d'un département à l'autre. Les Bouches-du-Rhône se distinguent, par exemple, avec 81 personnes admises en réa en ce moment sur 349 hospitalisations. On sait que la situation à Marseille inquiète les autorités sanitaires. La région parisienne est ensuite la plus touchée, 55 malades en réa dans la capitale, 40 dans les Hauts-de-Seine, 38 en Seine-Saint-Denis. Ensuite, le nombre de cas graves décline, 18 en Seine-et-Marne, par exemple, 15 dans l'Essonne, etc. Et seulement 4 personnes en réanimation dans l'Oise, alors que tous ces départements sont jugés très touchés. Au total, il faut retenir qu'en ce moment, le virus accélère quand même. En une semaine, 48 542 personnes ont été infectées en France, avec un tiers de nouvelles hospitalisations en plus sur les 3 derniers jours, Thomas.
Voilà, un tableau général préoccupant donc, d'où un besoin de mesures urgentes, parmi lesquelles, Tara, un probable durcissement de l'isolement à domicile, mais contrebalancé par son raccourcissement de 14 à 10, voire 7 jours.
Oui, réduire la durée de la quarantaine, c'est en tout cas la proposition du Conseil scientifique qui a rendu un avis en ce sens le 3 septembre. Même si Emmanuel Macron lui a rappelé, hein, vous l'avez dit, son rôle purement technique, le président pourrait bien s'inspirer de ses conclusions. Les spécialistes notent que les malades sont beaucoup moins contagieux au bout de la première semaine. Ils se réfèrent notamment à un article britannique paru le 28 juillet dernier qui a compilé 79 études sur le SARS-CoV-2. Il en ressort que si l'on trouve bien des traces de l'ARN du virus jusqu'à parfois 83 jours après le début de la maladie, dans les voies respiratoires aériennes de certains malades, eh bien ces traces génétiques ne sont pas contagieuses. Aucune excrétion virale infectieuse n'a été mesurée à partir du 9e jour chez aucun patient atteint de Covid-19 d'après cette compilation. Le Conseil scientifique plaide donc pour un isolement de 7 jours seulement, mais un isolement très précoce, car à l'inverse, la maladie est très contagieuse, Thomas, même dans les 3 premiers jours avant l'apparition des symptômes.
Merci Tara Schlegel. J'ajoute par ailleurs que le Covid-19 va être reconnu comme maladie professionnelle, on l'a appris ce matin. C'était l'une des promesses faites par le ministre de la Santé, Olivier Véran, au printemps dernier. Un décret va être publié en ce sens prochainement. Tous les malades qui ont fait une forme grave du Covid et qui ont au moins bénéficié d'une assistance respiratoires peuvent y prétendre. Concrètement, ce statut donnera d'abord droit à une prise en charge à 100% des soins par la Sécurité sociale. Par ailleurs, en cas d'incapacité, le patient pourra également toucher une rente, de même que la famille en cas de décès. Alors parmi les mesures qui auront permis de faire face à la crise sanitaire et économique figure évidemment le chômage partiel, mais aussi le télétravail qui aura concerné jusqu'à plus d'un actif sur quatre, sauf qu'il s'agissait là en réalité davantage d'une continuité d'activité à distance en temps de crise que de télétravail régulier. D'où les discussions actuellement en cours entre patronat et syndicats pour tenter de définir un cadre global. Anne-Laure Jumet, bonjour.
Bonjour.
Alors le télétravail doit-il être encadré par un accord national? Visiblement, les partenaires sociaux ont du mal à accorder leur position, même si en l'occurrence, Anne-Laure, les employeurs ont évolué sur la question.
Oui, en mai dernier, le MEDEF avait proposé aux syndicats de réaliser un diagnostic partagé sur le télétravail, tirant les leçons du confinement. Un document pour aider les branches professionnelles et les entreprises à mettre en place le travail à distance. Des discussions s'étaient ouvertes au mois de juin et la dernière réunion du genre a donc lieu ce matin. Dans son rapport présenté aux syndicats, la première organisation patronale distingue le télétravail en général et celui qu'on a connu pendant 8 semaines, qui s'apparentait plus, reconnaît-elle, à une continuité d'activité à distance. Une distinction qui était chère aux syndicats. Mais la CGT a déjà réagi, estimant qu'il n'y avait dans ce texte pas grand-chose de nature à changer le quotidien des travailleurs. Car les syndicats, et ils sont d'accord sur ce point, veulent plus qu'un simple état des lieux. Ils souhaitent donc renégocier un accord interprofessionnel. Le dernier sur le sujet est vieux de 15 ans. Pour la CFDT, il faut notamment garantir la prise en charge par l'employeur des frais liés au télétravail. L'organisation de Laurent Berger entend aussi acter le principe du double volontariat, celui de l'employeur et celui du salarié. Cet accord aurait aussi le mérite, expliquent les syndicats, de s'appliquer à toutes les entreprises, grandes et petites. De leur côté, les représentants patronaux préfèrent garder de la souplesse, arguant que dans les entreprises, on négocie déjà des accords ou des chartes sur le télétravail. La situation exceptionnelle que nous traversons ne doit pas déboucher sur des mesures définitives, résumait fin août le président délégué du MEDEF. Mais il y a quelques jours encore, les syndicats espéraient pouvoir convaincre le patronat de lancer une telle négociation.
Merci Anne-Laure Jumet. À lui seul, il avait cumulé 150 ans de mandat électif, un record. Christian Poncelet, ancien président du Sénat entre 1998 et 2008, est décédé aujourd'hui à l'âge de 92 ans. Stéphane Robert, bonjour.
Bonjour.
Avec une carrière politique de plus d'un demi-siècle, Stéphane, c'est un dinosaure de la Ve République qui s'éteint.
Oui, avec Christian Poncelet, c'est un animal hors norme de la politique qui s'éteint aujourd'hui. Il incarne à lui seul la Ve République et la manière qu'on a eu de faire carrière en tant qu'élu en France pendant des décennies. C'est le vieux monde, en quelque sorte. Il est parti de tout en bas, il n'a pas fait l'ENA. Né dans une famille d'agriculteurs, il échoue au brevet avant d'entrer au PTT en 1950, où il commence à faire ses armes en tant que syndicaliste. Ensuite, il rencontre Mendès France en 1953, ça l'a beaucoup marqué. Il s'engage en politique à l'UDT, parti qui rassemblait les gaullistes de gauche. Il est élu député en 1962 et ça s'est enchaîné. À partir de là, il a cumulé à lui seul, vous l'avez dit, 150 ans de mandat électif. Il a tout fait, ou presque, en politique. Conseiller général des Vosges pendant 51 ans, président du département durant 39 ans, sénateur, ça a duré 36 ans, maire de Remiremont, 18 ans, député, 10 ans, puis président du Sénat, 10 ans également, de 1988 à 2008, juste avant Gérard Larcher, actuel locataire de l'hôtel du Petit Luxembourg. Auparavant, Christian Poncelet avait aussi enchaîné les secrétariats d'État dans les gouvernements successifs de Pierre Messmer, Jacques Chirac, puis Raymond Barre dans les années 70. Il a été en charge des affaires sociales, de la fonction publique, des relations avec le Parlement, puis du budget. C'était un insubmersible de la politique qui n'a jamais expérimenté ce qu'on nomme aujourd'hui le dégagisme. D'ailleurs, il se vantait de n'avoir jamais perdu une élection. Il avait mis un terme à sa carrière il y a 5 ans, en 2015, en ne se représentant pas aux élections départementales. Il avait alors 87 ans.
Merci Stéphane Robert. À partir d'aujourd'hui jusqu'à la fin du mois de septembre, il sera désormais interdit aux associations non mandatées par l'État de distribuer des repas aux migrants à Calais. Objectif, limiter les risques sanitaires, mais aussi mettre fin aux troubles à l'ordre public, peut-on lire dans l'arrêté publié hier soir par la préfecture. Des milliers de déracinés ont passé leur troisième nuit consécutive dehors, sans tente ni couverture, parfois même sans eau ni nourriture, après que l'incendie du camp de Moria a laissé près de 12 700 migrants sans abri, dont 4 000 enfants. Dès hier, près des ruines du camp, des barrages ont été dressés par certains habitants de l'île pour tenter de bloquer les travaux d'installation de nouvelles tentes. De son côté, le vice-président de la Commission européenne a lui promis hier l'arrivée dans les prochaines heures de navires financés par l'UE pour héberger les plus vulnérables. 10 pays membres se sont également engagés à prendre en charge 400 mineurs. Quant au gouvernement grec, il peine, lui, visiblement à secourir les demandeurs d'asile. Les précisions à Athènes d'Angélique Kournis.
Mettre le feu ne sert à rien. Il n'y aura pas d'évacuation vers le continent. Le porte-parole du gouvernement conservateur grec Stelios Petsas est ferme. Son message à destination des migrants et demandeurs d'asile suspectés d'avoir mis le feu au camp de Moria, le plus grand camp de réfugiés en Europe, se veut même menaçant. Cette situation ne peut plus durer, a-t-il souligné. Il faut des infrastructures aux conditions de vie humaines, mais fermées et surveillées pour tous les demandeurs d'asile. Il faut que l'Europe passe d'une politique de solidarité à des actes de solidarité, a souligné pour sa part le Premier ministre conservateur grec Kyriakos Mitsotakis. Enfin, il faut accélérer les renvois des demandeurs d'asile déboutés, a conclu de son côté le vice-ministre de l'immigration. Le gouvernement grec redoute avant tout qu'en cas d'évacuation vers le continent, d'autres camps aux conditions de vie tout aussi déplorables que Moria sur les îles, dont Chios, Samos et Kos, soient incendiés, d'où la fermeté de ses propos, une fermeté dénoncée par l'opposition de gauche qu'il estime inhumaine et contraire au principe de solidarité.
Piqué au vif par l'intention du gouvernement britannique de faire adopter un projet de loi qui contredit en partie l'accord encadrant la sortie du Royaume-Uni de l'UE, une manœuvre qui, de l'aveu même de Londres, viole clairement le droit international. Les Européens ont exhorté hier leur ancien partenaire à expurger de ce projet les dispositions litigieuses, en vain, puisque Londres a fait savoir qu'elle ne retirerait pas son texte, de quoi envenimer un peu plus encore, évidemment, les relations déjà explosives entre les deux parties, mais pas seulement, car le coup de bluff, sinon de folie, de Boris Johnson est loin de faire l'unanimité, en particulier chez les anciens premiers ministres, y compris d'ailleurs parmi les conservateurs. Les précisions à Londres de notre correspondant Richard Place.
La dernière salve vient de Gordon Brown, elle date de ce matin. Depuis son fief écossais, le premier ministre travailliste de 2007 à 2010 fait parler son expérience, notamment en matière de discussion avec l'Union européenne.
Vous ne pouvez pas espérer une bonne négociation avec l'Europe si vous commencez par enfreindre un traité que vous avez signé. Mais je ne crains pas seulement le no deal, je crains aussi un accord minimal où nous serons en conflit permanent dans les années à venir. Ça n'a aucun sens si vous voulez que les gens aient du travail ici.
La mise en garde touche aux emplois au Royaume-Uni, un sujet cher à Boris Johnson qu'il met régulièrement en avant, beaucoup plus que les bonnes relations avec l'Union européenne qui intéressent sans doute moins son électorat. Les flèches viennent aussi de son propre camp. Des députés conservateurs s'étonnent et s'agacent, et la précédente occupante du 10 Downing Street sort de sa réserve. C'est au Parlement que Theresa May, qui avait négocié et signé ce traité, interroge le gouvernement.
Comment le gouvernement peut-il rassurer nos futurs partenaires commerciaux? Et comment peut-on faire confiance au Royaume-Uni pour respecter les traités qu'il signe?
La confiance, c'est aussi sur cet aspect que John Major insiste, conservateur également et Premier ministre de 1990 à 1997. Il met en garde son parti. Ce que nous risquons de perdre n'a pas de prix et pourrait être impossible à récupérer. Presque une paraphrase de Shakespeare dans la tragédie Macbeth. Ce qui est fait et ne peut être défait.
Et j'ajoute que ce matin, le Royaume-Uni a arraché auprès du Japon son premier accord commercial majeur depuis le Brexit. Censé entrer en vigueur le 1er janvier, il devrait permettre aux entreprises britanniques d'échapper aux droits de douane sur 99% de leurs exportations vers le Japon. Entre l'empoisonnement présumé d'Alexei Navalny et la montée d'un climat contestataire favorisé par une crise économique elle-même accentuée par la pandémie, les élections régionales organisées à partir d'aujourd'hui en Russie pourraient s'annoncer plus difficiles que d'ordinaire pour le pouvoir en place. C'est vrai qu'habituellement, les scrutins locaux suscitent relativement peu d'intérêt, tant la mainmise du parti de Vladimir Poutine, Russie Unie, semble inéluctable sur l'écrasante majorité des régions. Mais cette fois-ci, la machine électorale du Kremlin pourrait avoir à subir quelques camouflets, un vrai test, quoi qu'il en soit, à un an des législatives. Correspondance à Moscou, signée Claude Brouillot.
C'est un signe que l'opposition russe espère voir confirmé dimanche soir. Selon Leonid Volkov, le bras droit d'Alexei Navalny, il y aurait davantage d'intérêt cette année pour ces élections régionales partielles dans les villes où est passé l'opposant numéro un, Vladimir Poutine, juste avant d'être sans doute empoisonné. Précisément à Novosibirsk et à Tomsk, en Sibérie centrale, où le front anticorruption présente ses propres candidats ou appelle à soutenir ceux qui paraissent les mieux placés pour battre les représentants du Kremlin qui sont en lice. Cette stratégie dite du vote intelligent avait déjà donné quelques résultats surprenants en 2019, notamment à Moscou, où Russie Unie, le parti de Vladimir Poutine, n'a plus que 25 sièges sur 45, après avoir perdu un tiers de ses élus à cause de cette stratégie d'Alexei Navalny et au profit du Parti communiste. Mais d'une façon générale, ces élections qui s'étalent sur 3 jours à cause de la crise sanitaire ne sont mises en avant par aucune véritable campagne d'information officielle, un peu comme si le pouvoir fédéral comptait sur l'indifférence croissante des Russes vis-à-vis de la politique. Quelques jours après l'empoisonnement d'Alexei Navalny, le centre d'études indépendant Levada avait révélé dans un sondage que 41% des personnes interrogées seraient dans l'incertitude ou le désintérêt s'il y avait demain une élection présidentielle en Russie. 40% voteraient encore pour Vladimir Poutine et seulement 2% pour Alexei Navalny, qui n'a jamais eu accès, faut-il le rappeler, aux grands médias russes.
Voilà plusieurs mois déjà que les géants américains de la tech multiplient les annonces sur des opérations de propagande démantelées, orchestrées depuis l'étranger, notamment la Chine et la Russie. Hier, Microsoft a encore révélé qu'un groupe de pirates russes avait attaqué plus de 200 organisations impliquées dans la campagne présidentielle. Et puis hier, les États-Unis ont par ailleurs sanctionné un Ukrainien considéré comme un agent de la Russie pour avoir tenté de discréditer Joe Biden et dont les montages censés incriminer le candidat démocrate avaient été relayés par Donald Trump lui-même. Toujours aux États-Unis, les soldats du feu continuent à cette nuit encore de lutter contre plus d'une centaine d'incendies qui depuis plusieurs jours dévastent la côte ouest, des feux de forêt d'une ampleur sans précédent qui ont déjà causé la mort d'au moins 8 personnes et forcé par ailleurs près d'un demi-million d'habitants à fuir les flammes. 19 ans après les attentats les plus sanglants de l'histoire, les commémorations du 11 septembre devront non seulement s'adapter cette année à l'une des pires crises sanitaires, mais aussi conjuguer unité nationale et campagne électorale, alors même que ces cérémonies sont traditionnellement dépourvues de rhétorique politicienne. Alors, la tradition établie consistant à faire lire à haute voix les noms des victimes par les membres de leur famille a été abandonnée. Les noms ont été préenregistrés et seront diffusés par haut-parleurs pour éviter les rassemblements. Quant à Donald Trump et Joe Biden, ils se succéderont aujourd'hui sur le site du crash de l'un des avions détournés par les djihadistes en Pennsylvanie. Un choix qui illustre des calculs évidents derrière ces événements. La Pennsylvanie est en effet un état clé pour la présidentielle et en l'occurrence les derniers sondages y donnent les deux candidats au coude à coude. C'est un reportage signé de notre envoyé spécial Omar Waman.
Les deux candidats vont rendre hommage aux 40 passagers, membres d'équipage, héros de l'Amérique pour avoir tenté de prendre le contrôle de l'avion que les terroristes dirigeaient vers Washington. Pour Barbara, une habitante de Philadelphie, c'était des vrais Américains. Cette volonté de se sacrifier pour sauver la vie de tant d'autres, c'est l'esprit américain.
That's the American spirit.
Et chacun des deux adversaires veut se présenter comme celui qui incarne le mieux cet esprit.
They both want us to believe that.
C'est ce que pense Rachel, venue de l'État voisin de l'Ohio. C'est ce qu'ils veulent, qu'on les perçoive comme tels. C'est frustrant de voir que des événements comme celui-ci soient utilisés pour des raisons politiques. Car nous sommes au cœur de la Pennsylvanie, un État où les électeurs sont imprévisibles, un État qui peut basculer d'un côté comme de l'autre.
Why are they coming? 'Cause Pennsylvania is a key state.
Don, une jeune retraitée, croit savoir pourquoi elle se déplace ici. Eh bien, parce que c'est un État clé, indécis, qui a longtemps voté démocrate avant de choisir Donald Trump en 2016. Ils doivent montrer leur visage, ils doivent montrer qu'ils s'intéressent.
It's all fake.
Tout ça, c'est du bidon, c'est la politique.
This is politics.
Ce n'est pas la première fois que deux rivaux à la présidentielle se rendent sur un même site. Pour commémorer les attentats du 11 septembre, Hillary Clinton et Donald Trump, il y a 4 ans, avaient assisté ensemble aux cérémonies à New York.
L'invité de la rédaction, aujourd'hui à la veille de la 85e édition de la fête de l'UMA, Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime. Bonjour monsieur.
Bonjour.
À mes côtés pour vous interroger, Sophie Delpont. Bonjour Sophie.
Bonjour.
Alors coronavirus oblige, l'événement qui se déroule habituellement à la Courneuve prendra cette année une forme inédite dans plusieurs quartiers de la capitale et de la région parisienne. Nous allons y revenir. Une première question toutefois monsieur Jumel, demain est prévu un débat intitulé La gauche face au défi du pouvoir, comment imposer une alternative rouge et verte en 2022? Alors précisément, quelle est aujourd'hui la position de votre parti? Êtes-vous prêt à une alliance de toute la gauche?
La crise sanitaire n'est pas derrière nous. La crise économique frappe à la porte des usines. La crise sociale bouscule les familles. Et pendant ce temps-là, la planète brûle. Et l'urgence climatique est omniprésente. Il y a donc une ardente obligation pour les progressistes, pour les femmes et les hommes de gauche, d'affronter ces enjeux, de se rassembler. Parce que sinon, l'alternative, c'est le libéralisme ou la marée brune. Et donc oui, il faut travailler aux convergences, oui, il faut se rassembler, oui, il faut faire en sorte qu'à la veille des présidentielles, nous soyons en rang serré pour faire face à la vague libérale qui fait mal aux vies.
Question de Sophie Delton.
Donc vous dites à la veille de la présidentielle, c'est vrai que ça avance très vite hein, le calendrier politique. Il y a plusieurs candidats qui pourraient se définir. En tout cas, Christiane Taubira disait ce matin sur France Inter, beaucoup de personnes se bousculent sur l'estrade pour endosser une éventuelle candidature de la gauche réunie. Pour vous, est-ce qu'il faut aller à nouveau avec Jean-Luc Mélenchon? Ou est-ce que c'est plutôt Christiane Taubira ou bien François Ruffin? Est-ce qu'il peut y avoir pour vous là un candidat qui puisse réunir tout le monde?
Dans les trois personnalités que vous avez citées, on pourrait en ajouter d'autres.
Arnaud Montebourg, par exemple.
C'est qu'elles ont toutes un potentiel, une intelligence, des valeurs en partage. Il faudra donc faire en sorte qu'ils ne se bousculent pas sur l'estrade, mais qu'ils additionnent leur force, leur énergie, leur capacité à convaincre, pour au bout du compte choisir le meilleur d'entre eux, comme disait Chirac, afin d'affronter l'élection présidentielle. Parce que c'est une forme de rendez-vous avec le peuple de France, l'élection présidentielle. Et puis, si l'on est, comme je suis, pas attaché à un système où un seul homme décide de tout, si l'on est attaché à réformer les institutions, il y a donc aussi à prévoir une nouvelle manière pour la gauche de se réapproprier les enjeux du pouvoir, de donner des droits nouveaux aux salariés dans les entreprises. C'est aussi l'un des enjeux du plan de relance. Si on demande aux salariés ce qu'ils pensent des aides publiques à déployer pour l'industrie, ils auront des idées pour faire en sorte que ça serve l'emploi, que ça ne percute pas l'environnement, que ça irrigue les territoires, vous voyez. Et donc, oui, il faudra en désigner un, mais il faudra que la gauche soit en partage de valeurs et d'une certaine manière tire les leçons que personne n'est en situation d'être hégémonique.
À propos de cette liste de candidats potentiels, il n'y a aucun candidat communiste. Ça veut dire que pour vous, la question ne se pose même pas qu'il faille absolument avoir un candidat communiste à la prochaine élection présidentielle.
Moi, je considère que la force communiste est utile à la gauche, qu'elle a dans son ADN d'ailleurs le drapeau du rassemblement en tête. Et il y a d'ailleurs des territoires, j'en suis l'émanation, où les communistes peuvent revendiquer des positions de leadership. Je ne suis pas certain qu'à l'instar des présidentielles, ça soit le cas. Nous aurons des discussions de congrès, j'imagine, là-dessus. Mais ce que je sais, c'est que les communistes, leur responsabilité, c'est de faire en sorte que nous puissions avoir des réponses politiques utiles au peuple, utiles aux gens, et de nature à réparer 5 ans de quinquennat libéraux qui ont fait mal aux industries. Enfin, vous avez vu la nouvelle sur General Electric aujourd'hui. Au moment où on nous rabat les oreilles de discours sur les relocalisations, sur la réindustrialisation, on a l'illustration d'un renoncement industriel dont Emmanuel Macron est le responsable. Et donc oui, et c'était le fruit des journées parlementaires à Martigues, il nous faut faire des propositions pour redonner du sens à l'industrie, pour redonner du pouvoir d'achat aux plus modestes, pour faire en sorte que les services publics qui prennent soin des gens, les métiers du lien, dont on a perçu à travers la crise qu'ils étaient profondément utiles, puissent être au cœur d'un projet de société de gauche dans les semaines et les mois qui viennent.
Le Parti communiste français fête ses 100 ans, avec cette fête de l'humain un petit peu particulière cette année. Quels sont là les axes pour l'avenir du PCF aujourd'hui en France, selon vous?
Moi, je pense que c'est une force profondément d'avenir, à condition qu'elle soit en situation de ne pas être recroquevillée sur son identité, mais qu'elle puisse embrasser, j'allais dire, le peuple de gauche, dans sa diversité, en montrant le chemin de son utilité. Vous savez, quand, comme je le fais chez moi, on rassemble des acteurs autour de la défense du lien transmanche. Lorsqu'on fait la démonstration côté des salariés, des chefs d'entreprise, qu'il y a une place pour le Made in France possible avec Alpine Renault à Dieppe, qu'on écoute les citoyens, ça peut vous paraître anecdotique, mais que sur l'idée que la préservation d'un pont Eiffel à Dieppe est constitutif de notre identité et que l'identité, c'est des sujets qu'on ne doit pas laisser à la droite ou aux fachos, eh bien on fait la démonstration qu'on est capable de rassembler au-delà de nos chapelles. Eh bien si les communistes, dans leur manière d'être au quotidien, dans les combats qu'ils mènent à l'Assemblée dans tous les territoires de vie sont comme cela, alors ils seront en situation peut-être d'être à nouveau au cœur des conversations.
Merci Sébastien Jumel, député PCF de Seine-Maritime, je le rappelle, d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à Sophie Delpont. On termine avec un mot du temps pour cet après-midi pluvieux et orageux des Alpes à la Corse, partout ailleurs du soleil. Quant aux températures, elles afficheront entre 19 et 31 degrés. C'est la fin de ce journal, il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Marc Potvin pour le prochain journal de la rédaction.